de Radio G. La semaine dernière, pour débuter cette nouvelle année, je vous avais préparé un petit best-of de nos différents héros de l'ombre passés au micro de Radio G en ce début de saison 2. Sachez que vous pouvez retrouver toutes ces émissions en podcast sur le site de Radio G, radio-g.fr, ainsi que sur Spotify. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai trouvé la personne qui peut redonner une seconde vie à certains de vos objets de valeur, qui appartiennent à votre famille depuis plusieurs années par exemple, mais qui sont un peu usés, fendus, coqués, cassés. Eh bien ne cherchez plus, j'ai la personne qu'il vous faut. Et elle est avec moi, cette héroïne de l'ombre et restauratrice d'œuvres d'art spécialisée en céramique. Et elle s'appelle Laura Chaponneau. Bonjour Laura, comment vas-tu ?
Bonjour Fabien, ça va et toi ?
Oui, super. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors Laura, nous allons passer une petite demi-heure ensemble pour découvrir ce métier de l'ombre que tu exerces, comment tu l'exerces et où. Nous verrons également ton parcours à travers le globe, de Londres en Sicile en passant par la Suisse, pour arriver jusqu'à ton atelier à Angers. Puis je te demanderai au cours de cette interview de nous partager deux titres de musique que tu apprécies tout particulièrement. Alors tu es prête ? On est parti ?
C'est parti.
Très bien. Alors Laura, peux-tu te présenter, nous dire d'où tu viens ?
Alors, je m'appelle Laura Chaponneau, j'ai 34 ans, je suis originaire de Paris et ça fait maintenant 2 ans et demi que j'ai emménagé à Angers.
Alors, une Parisienne pure souche qui vient s'installer à Angers.
Une pure souche, née dans le 18e en plus, donc je crois que c'est une denrée rare maintenant, les vrais Parisiens.
Ben, c'est sympa ça, à Angers, de nous faire une petite visite comme ça.
Ouais, non, c'est vrai que la ville m'a beaucoup plu. En fait, j'avais plusieurs amis, des couples d'amis qui avaient emménagé un peu pendant la période du Covid.
Ah,
et moi, ça faisait des années que je souhaitais déménager. Ça s'est fait un peu comme ça, à force de faire des week-ends à Angers. Voilà, la ville m'a vraiment beaucoup plu et c'était tout ce que je voulais comme cadre de vie. Et puis aussi pour le travail, malgré tout, ça, voilà, une région quand même avec beaucoup d'histoire, beaucoup de patrimoine. Donc voilà, c'est vrai que c'était...
Oui, puisque c'est surtout ça qui t'intéresse, toi.
Oui, aussi, oui. Et puis malgré tout aussi assez proche de Paris parce que j'ai encore beaucoup de clientes, enfin une clientèle de professionnels qui est à Paris. Mmh. Donc ça me permet de faire des allers-retours assez facilement.
Forcément, oui. Voilà. 1h30 en train, c'est assez rapide.
Bah, du coup, j'y vais pas forcément en train parce qu'il y a quand même beaucoup d'objets en général à ramener.
Ah, bah oui,
donc
effectivement.
La voiture est obligatoire à ce moment-là.
Que suis-je bête, j'avais déjà oublié. Eh bien justement, est-ce que tu peux nous donner une définition claire, avec tes propres mots, de ton métier qui est restauratrice d'œuvres d'art spécialisées en céramique ?
Alors, clair, en gros, ça veut juste dire, les gens disent souvent, c'est un peu la médecine de l'art, donc c'est vraiment réparer des objets, permettre de les faire perdurer dans le temps également, donc même si c'est pas forcément cassé, ça peut être juste un nettoyage pour lui redonner un peu d'éclat, et voilà, après les problèmes de la vie, voilà, le chat qui passe, le petit enfant qui pousse la table sur laquelle était la sculpture donnée par les grands-parents ou les choses comme ça, ces petits accidents-là, je suis là pour les réparer. Et donc, on va recoller les morceaux, on va combler les fissures, les trous qu'il peut y avoir.
Et repeindre,
tout à fait. Donc voilà, c'est que de l'illusion. Malgré tout, le métier, c'est on réutilise pas de la céramique.
D'accord.
Pour restaurer, c'est que de l'illusion. Mais en tout cas, on fait vraiment en sorte que ça puisse être invisible.
Ok. Donc c'est ton défi au quotidien.
C'est mon défi au quotidien, voilà.
Et depuis combien de temps dure ce défi ?
Eh ben, ça va faire 10 ans cette année.
Ah déjà,
ouais,
quand même ?
Ouais, 10 ans.
Félicitations.
Merci.
Et d'ailleurs, si on remonte un petit peu en arrière, quel métier la petite Laura rêvait de faire quand elle était petite ?
Alors, je voulais travailler avec les chevaux, parce que je suis cavalière depuis de nombreuses années.
Le milieu équin.
Voilà, milieu équin. Et puis, après les études faisant, moi j'ai fait un bac S, et du coup j'ai toujours été très attirée par ça, surtout la SVT et la géologie. Donc finalement, on se rapproche un peu aussi de la Terre. C'était soit faire un métier type volcanologue, sismologue, je me voyais sur le terrain face au volcan, des choses comme ça. Et il y avait ça, soit déjà la restauration de céramique, parce que j'ai eu la chance d'avoir un atelier juste à côté de chez moi dans le 18e, du coup. Et ils avaient une vitrine sur rue qui montrait en fait un peu la dernière étape de la restauration, donc la retouche de couleur. Et c'était tellement, pour moi, c'était tellement impressionnant avec mes yeux d'enfant de voir un objet où on voyait qu'il manquait quelque chose et les personnes en deux coups de pinceau, elles te retrouvaient la couleur exacte, l'effet parfait. J'étais là, mais waouh, c'est de la magie. Et donc voilà, ça a toute sa vite, voilà, j'ai vite eu deux choix, on va dire. Enfin, voilà, la géologie ou la restauration de céramique. Et c'est après un salon d'étudiants que voilà, je me suis vraiment décidée à aller dans cette voie-là.
Mais malgré tout, tes yeux d'enfant t'ont mené à aller vers cette place que tu occupes aujourd'hui. Tu es donc aujourd'hui restauratrice d'œuvres d'art spécialisée en céramique. Mais comment l'es-tu devenue ? Eh bien ça, c'est ce que nous allons découvrir à travers ton parcours d'études, la belle rencontre que tu as fait et qui t'a fait aimer ce métier et tes différents stages à l'étranger. Mais avant cela, je te propose une première petite pause musicale. Et comme dans chaque émission des Métiers de l'Ombre, j'aime proposer à nos auditeurs les morceaux qui rythment la vie de nos invités. Alors toi, Laura, dis-moi, quelle musique aimes-tu écouter le matin ?
Alors, c'est assez vaste. J'avoue, j'écoute pas forcément une musique en particulier. J'en ai découvert certaines qui vraiment mettent la pêche, dont là, par exemple, c'est End Clap de Fits and the Tantrums. Voilà, vous allez voir, c'est un bon son.
Oui, c'est un bon son pour se réveiller le matin, c'est
voilà,
ça.
Voilà, c'est ça, en forme, okay. Et se mettre la pêche.
Eh ben, écoutons ça tout de suite. Somebody save your soul, 'cause you've been sinning in the city. I know too many troubles, all these lovers got you losing control. Luxury, my sugar and gold. I want the good life every good night. You're a hot one to hold. 'Cause you don't even know. I can make your hands clap. Said I can make your hands clap. Somebody save your soul, 'cause you've been sinning in the city. I know too many troubles. All these lovers got you losing control. You're like a drug to me, a luxury, my sugar and gold. I want your sex and your affection when they're holding you close. Come out. Retour dans les métiers de l'ombre, vous nous écoutez sur Radio G101.5 FM et aujourd'hui je suis avec Laura Chaponneau, restauratrice d'œuvres d'art. Alors Laura, en passant tous les jours devant un atelier de restauration dans le 18e à Paris, naît cette envie de faire ce métier et donc tu te diriges dans cette voie après ton bac S. Quelle formation donc du coup faisons-nous pour accéder à ce type de métier ?
Alors, donc c'est vrai qu'il y a malgré tout peu d'écoles qui proposent ce genre de formation, mais concrètement il y a l'école publique qui s'appelle l'INP, l'Institut National du Patrimoine, et l'école de Condé qui est l'école privée, où je me suis dirigée d'ailleurs, parce que vraiment l'école public, je pense qu'il fallait faire au moins 3 ans d'études en plus pour avoir un background un peu historique, voilà. Et on m'a toujours dit le concours est voilà est impossible à faire. Et j'avoue, j'avais pas envie de passer 8 ans en études, donc j'ai choisi un peu la facilité en prenant une école privée où là il y avait juste sur dossier et sur entretien. Donc c'est des études qui se font en 5 ans à mon époque. Ma vieille époque.
Ça a changé.
Ça a un peu changé. La première année, on pouvait tester 3 types de restauration. Donc, la restauration de céramique, de tableaux et également d'art graphique. Donc, tout ce qui est sur support papier. Donc, ça, c'était plutôt chouette de se dire, bon, voilà, moi, j'étais quand même venue dans cette école avec l'idée de faire de la céramique. Mais bon, voilà, j'étais pas fermée non plus à me dire, peut-être que je vais découvrir un truc incroyable.
Ouais.
Bon, comme prévu, les tableaux, ça m'intéressait pas du tout. Mais du coup, j'ai vraiment découvert l'art graphique et c'était vraiment intéressant de voir cette pratique-là où je pensais que ça allait être très restreint à des livres et des feuilles de papier un peu nulles. En fait, il y avait tellement d'objets différents, tellement de techniques et j'étais là, waouh, c'est vraiment ça, c'est vraiment stylé.
Oui, c'est vrai que ça a l'air d'être un monde aussi à part monde du papier comme ça, restauré. Bah,
les linogravures,
les affiches,
donc les livres anciens, mais il y a aussi les ombrelles chinoises. Il y a eu en œuvre de mémoire un accordéon. Enfin, il y a eu des trucs vraiment improbables. Donc c'était assez intéressant de voir ça. Donc ça m'a un peu ouvert l'esprit, mais je suis quand même rester sur mon idée première de faire de la céramique parce que j'ai toujours aimé le travail en volume. En fait, je trouve ça vraiment plus intéressant.
Oui.
Et en fait, ouais, la diversité de formes, et puis surtout, c'est l'un des premiers arts humains, on va dire. Hein. Mm-hmm. C'est les premières choses que les hommes ont fait, c'est de la céramique. Donc voilà, donc j'ai fait cette première année, je me suis spécialisée, et donc là, on rentre vraiment tout dans un processus un peu plus ciblé, donc technique céramique, histoire de la céramique.
Ah oui, c'est vraiment céramique, tu manges de la céramique.
Je mange de la céramique tous les jours, beaucoup d'heures de pratique. Après aussi, voilà, des cours beaucoup plus classiques. On faisait de l'italien, de l'anglais, parce qu'il y a beaucoup de documents qui sont écrits en italien pour
tout ce qui est.
Ouais, bah bon, surtout en restauration de tableaux, hein. Mais bon, on avait quand même une grosse partie là-dessus. Voilà, histoire de l'art classique beaucoup plus général. Et voilà, donc en fait, pendant ces études-là, j'ai pu faire plusieurs stages. À mon époque, c'était pas forcément obligatoire les premières années. C'était conseillé, mais c'était pas dans le cursus. Maintenant, c'est beaucoup plus cadré pour faire vraiment ces expériences. C'est comme ça qu'on apprend le plus, finalement. Comme dans toute étude, on n'apprend rien pendant qu'on y est. C'est plutôt les premières expériences qui vont nous apprendre tout ça.
Et toi, tu t'es dit, j'ai pas de temps à perdre.
J'ai clairement pas de temps à perdre. Et puis surtout, en fait, la bizarrerie de cette école, c'est qu'ils nous apprennent à restaurer pour les musées. Sauf que ce qu'ils omettent de nous dire quand on s'inscrit dans l'école, c'est que le diplôme de l'école n'est pas suffisant pour travailler pour les musées.
Ah.
En tout cas, pas en France. En tout cas, non, pas en France. Bah, en fait, c'est un peu la guerre entre le public et le privé, c'est un peu le problème. Et du coup, voilà, moi, j'apprends un peu ça en quatrième année. Genre, en fait, non, tu pourras pas. Bah, je me suis surtout rendu compte quand je demandais des stages et que même les stages m'étaient refusés dans les musées.
Ah oui.
Voilà, sauf à l'étranger.
Ah oui, d'accord.
du coup, voilà, moi connaissant donc cet atelier dans le 18e depuis longtemps, j'ai souvent fait une semaine, 2 semaines pendant mes vacances. J'allais dans l'atelier,
Tes 5 années d'études.
Ouais, ouais, dès la 2e année, je pense que j'étais chez eux et puis je faisais des petites étapes, peut-être ridicules maintenant. Je mettais un temps fou, c'était une catastrophe, mais voilà, c'est comme ça qu'on apprend. Et elles m'ont dit, bon voilà, en atelier. Malheureusement, le temps c'est de l'argent, donc en fait il faut aller un peu plus vite que pendant tes études, quoi. On n'a pas le temps, il faut que ça puisse y aller, quoi.
Et donc, c'est là que tu rencontres Françoise.
C'est là que je rencontre Françoise Toulet, une femme incroyable qui n'a pas fait elle d'études de restauration, mais qui a appris via un concours et via un peu un mentor elle aussi. Et pour moi, c'est un peu ma référence de restauration.
Oui, c'est devenu ton mentor.
Ouais. C'est vrai qu'elle m'a toujours beaucoup aidée. C'est elle qui m'a un peu pris sous son aile. Et bien sûr, d'autres personnes de cet atelier, hein, que je remercie encore, parce que vraiment, c'est grâce à elle que j'ai vraiment découvert ce que c'était que la restauration. Et voilà. Et donc, jusqu'à la fin de mes études, j'ai continué à aller les voir. En parallèle, j'ai fait d'autres stages, donc dans des musées ou dans des institutions.
Bah oui. C'était ce que j'allais te demander, parce que pendant cette période de 5 ans, t'as enchaîné, donc, comme tu disais, les stages dans des ateliers. et instituts incroyables comme le château de Vincennes, au département d'archéologie de la Seine-Saint-Denis.
Oui, tout à fait.
Un atelier privé en Sicile, oui. Et un autre à Londres, puis dans un laboratoire de musée en Suisse. Comment faire un choix après toutes ces expériences? Et surtout, est-ce qu'on a des portes qui s'ouvrent à des moments?
C'est vrai que dans les ateliers privés, malheureusement, ça reste un métier assez rare. Et puis, on va dire, on n'a pas forcément, enfin, les personnes dans les ateliers n'ont pas forcément beaucoup de travail, donc ils ne peuvent pas engager quelqu'un. Ou alors c'est pour des petites missions, ou alors les ateliers sont trop petits, donc ils peuvent pas avoir une deuxième personne. Ou alors beaucoup de gens, par exemple en région parisienne, travaillent de chez eux presque, donc pas l'espace non plus. Donc c'est vrai que ça ouvre pas forcément, enfin vers les restaurateurs en atelier, on va dire. On peut pas. Ça va être difficile de rentrer chez eux. Les musées, je pense que j'en ai pas fait assez pour ça.
D'accord.
Et pareil, c'est le milieu public, moi je pouvais pas trop y accéder. Donc à moins de déménager d'aller trouver un autre, enfin de changer de pays quoi. C'était pas le but.
Après cette expérience, par exemple dans le musée en Suisse, c'était incroyable.
J'ai fait 3 mois du coup au Palais de Rumine à Lausanne. Et là vraiment j'ai découvert c'était quoi la restauration en institut. Donc là on était une équipe de 6 restaurateurs et bizarrement j'ai pas fait de restauration de céramique, j'ai fait de la restauration de métal.
Ah.
Ouais. Donc c'était rien à voir.
Non, oui.
Mais c'était super intéressant de voir une équipe, on va sur le terrain parfois pour aller voir les sites de fouilles, des trucs comme ça, il y a des historiens qui viennent examiner les pièces pour les dater. Et c'était incroyable ce fourmillement, on va dire, de personnes incroyables.
Ça va être passionnant.
Ouais, franchement, c'était assez, assez incroyable. Mais oui, c'est vrai que ça a été ma seule expérience réellement en institut. Et ne voulant pas déménager de France, j'ai été vite conduite à créer mon atelier.
C'est donc suite à ça, l'étape suivante après tes études.
Ouais.
C'est donc de te mettre à ton compte et donc de créer ton propre petit atelier.
Exactement.
Et tu l'as créé direct à Angers ou avant à Paris?
Non, alors du coup, donc après mes études, moi j'ai fini en octobre 2015, j'ai été diplômée. Et après, pendant les 3-4 mois, j'ai quand même essayé de voir si on pouvait me prendre dans un atelier pour continuer à me former, parce que je me sentais pas forcément prête à me lancer, quoi. Et en fait, j'ai pas eu le choix.
Ouais.
Mes parents m'ont un peu poussée à le faire, à être indépendante, quoi. Donc pendant, je l'ai créé du coup, je sais pas, en avril, je crois, 2016, quelque chose comme ça. Et j'ai commencé du coup à travailler de chez moi, parce qu'un atelier ça coûte cher.
Oui.
Et quand on part de zéro, faut monter toute sa clientèle.
Forcément.
Donc on créait des petites cartes. J'avais la chance quand même donc d'habiter dans le 18e et juste à côté, on était pas loin de Saint-Ouen, des puces de Saint-Ouen, où il y a plus de, je sais pas, 3000 marchands. Enfin, c'est vraiment un fourmillement incroyable. Donc voilà, on a 25 ans, on prend nos petites cartes et on va se présenter aux marchands qui nous font le moins peur.
Oui, c'est ça.
C'est quand même un monde très particulier. Et voilà, et après il y en a un qui fait confiance, un deuxième, et puis après c'est un petit monde, donc bouche à oreille se met en place et voilà quoi. Mais j'ai mis 3 ans peut-être avant d'avoir une clientèle un peu viable, quoi.
Oui.
Et du coup, donc j'ai commencé chez moi et après j'ai eu assez de trésorerie pour prendre un atelier.
Mmh.
Que j'ai ouvert à Vincennes avec 2 autres personnes.
D'accord.
Et du coup, on a eu cet atelier pendant 6 ans. Et après, en fait, moi, j'ai profité un peu de la fin du bail pour me dire, allez, c'est le moment de partir, c'est bon.
Changer d'horizon.
Mon travail est assez stable pour me dire, je peux sans craindre, de me déplacer et de changer de ville, quoi.
Et direction l'Ouest.
Direction Angers, Angers bébé.
Ouais, c'est ça. Et bien maintenant que l'on a bien en tête ton parcours, peux-tu nous raconter ou expliquer une journée de ton quotidien dans les coulisses de ton atelier?
Alors, moi tout se fait en fait par rapport à mes retours à Paris. Donc sachant que j'y vais toutes les 3-4 semaines, les semaines sont... C'est plutôt une organisation par semaine.
Ouais.
On va dire la semaine 1, c'est le retour de Paris. Donc je vais faire tous mes devis pendant 2 jours, envoyer tout ça aux clients, faire mes factures. C'est la compta, quoi, l'administratif. Et après, je vais vraiment sélectionner les pièces en fonction de leur état. Donc par exemple, des pièces qui ont déjà été restaurées ou la restauration est un peu vieillie, mauvaise. Mmh. Je suis obligée de tout nettoyer. Tout enlever, les traces de colle, tout ça pour remettre l'objet à nu.
Oui.
Donc je vais commencer par tout ce qui est les nettoyages. pendant la première semaine. Et les, après, donc, l'étape d'après, c'est les collages, si la pièce est cassée. Mmh. Et après, quand j'en suis là, bah, on arrive quasiment un peu à la deuxième semaine, déjà. Et du coup, là, je vais m'occuper de tout ce qui est les comblements. Donc, ça veut dire vraiment colmater les fissures, les manques de matière, recréer des morceaux qui pourraient manquer.
Ah, d'accord.
À base de, si, voilà, si j'ai une pièce où il y a, je sais pas, deux poignées, par exemple, sur une petite coupelle, bah, je vais faire un moule de l'une pour pouvoir recréer l'autre. Ou alors vraiment partir de rien et essayer de recréer un morceau manquant. pardon. Et après... Bah du coup, c'est la dernière étape. Une fois que tous les comblements sont faits et que les pièces sont prêtes à peindre, bah voilà, je passe ma dernière semaine à faire toute la peinture des objets. Donc ça va, il va y avoir plusieurs étapes.
Des temps de séchage et tout ça à chaque fois.
Il y a beaucoup de temps de séchage en général. Donc c'est pour ça aussi qu'on travaille pas forcément sur une pièce tous les jours. On travaille sur 20 pièces parce que le temps que celle-ci soit collée, bah je vais pouvoir coller l'autre. Le temps que la colle sèche, je vais pouvoir faire ça. Donc oui, il faut essayer d'être assez organisé. C'est pas encore parfait, mais on essaye.
Bien sûr, il faut avoir une méthodologie.
Voilà, voilà. Et du coup, l'étape de peinture la plus importante est celle vraiment qui va redonner l'éclat aux objets. Donc, en fonction, voilà, si c'est juste de la porcelaine blanche ou s'il y a des décors. Donc, on va vraiment faire étape par étape. On fait pas, la peinture, elle se fait pas en une fois. Elle va se faire en 4, 5, 6 étapes en fonction de la complexité des décors. S'il y a de la dorure, pas de la dorure. Un peu des effets de volume parfois. Bon, voilà, faut.
Ok. En tout cas, ça, ce métier passionnant avec ces objets-là et ces œuvres que tu répares, ça doit fournir un tas d'histoires que tu dois certainement avoir à raconter. Mais avant que tu nous les racontes, je te propose une petite pause musicale à nouveau avec un morceau que tu affectionnes tout particulièrement.
Oui, tout à fait. Moi, c'est plutôt l'artiste en lui-même, donc c'est Jacques Brel. Voilà, c'est un artiste que j'écoute toujours avec plaisir. Et cette musique, c'est Les Vieux. Je la trouve vraiment particulièrement touchante. Voilà.
Eh bien, écoutons Les Vieux de Jacques Brel.
Ou alors seulement parfois du bout des yeux. Même riches, ils sont pauvres. Ils n'ont plus d'illusions et n'ont qu'un cœur pour deux. Chez eux, ça sent le thym, le propre. La lavande et le verbe d'antan. Que l'on vive à Paris, on vit tous en province. Quand on vit trop longtemps, est-ce d'avoir trop ri que leur voix se lézarde quand ils parlent d'hier, et d'avoir trop pleuré que des larmes encore leur perlent aux paupières. Et s'ils tremblent un peu, est-ce de voir vieillir la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, qui dit je vous attends. Les vieux ne rêvent plus, leurs livres sans sommeil, leurs pianos sont fermés, le petit chat est mort. Le muscat du dimanche ne les fait plus chanter. Les vieux ne bougent plus, leurs gestes ont trop de rides. Leur monde est trop petit. Du lit à la fenêtre, puis du lit au fauteuil, et puis du lit au lit. Et s'ils sortent encore, bras dessus, bras dessous, tout habillé de rêve, c'est pour suivre au soleil l'enterrement d'un plus vieux, l'enterrement d'une plus laide, et le temps d'un sanglot oublié toute une heure, la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, et puis qui les attend. Les vieux ne meurent pas, ils s'endorment un jour et dorment trop longtemps. Ils se tiennent la main, ils ont peur de se perdre et se perdent pourtant.
Toujours sur Radio G 101.5 FM et en DAB+, vous écoutez Les Métiers de l'Ombre avec notre invitée Laura Chaponneau, restauratrice d'œuvres d'art. Alors Laura, ça va toujours ?
Toujours bien, parfait.
Super. Alors, avec ces nombreuses expériences et œuvres restaurées aux quatre coins du monde, tu as forcément dû faire face à certaines situations ou certaines œuvres qui ont provoqué du coup une anecdote marquante. Tu me disais tout à l'heure en off que t'en avais une qui t'avait un peu ému.
Bah c'est plutôt vraiment le plaisir qu'on peut procurer à des gens grâce à ce métier. Donc j'ai l'exemple quand j'étais encore à Vincennes, une dame rentre dans l'atelier et veut nous confier une petite tasse en porcelaine, un peu banale, mais en fait qui a une histoire incroyable pour sa maman à elle. Elle faisait partie du service de mariage avec son mari qui était décédé à l'époque. Et elle me raconte un peu l'histoire, l'objet est cassé en 10 morceaux, il en manque un. Moi j'étais là, bon, ça va peut-être pas valoir le coup, mais bon, ça avait l'air de lui tenir à cœur, donc voilà, je lui fais un devis assez raisonnable. Donc elle me le confie et je sais pas, un mois plus tard, elle vient le récupérer. Déjà là, on voit l'émerveillement face à la restauration, de voir vraiment l'objet comme s'il ne s'était jamais rien passé. Et voilà, elle me dit, mais vraiment, merci beaucoup, ma mère va être tellement heureuse. Et c'était juste avant la période de Noël, donc elle me dit, voilà, je vais lui en faire cadeau pour Noël. Donc moi, j'étais déjà là un peu fébrile, un peu touchée par ces mots, parce que j'avais jamais eu autant de compliments, travaillant beaucoup pour des professionnels.
Ah oui.
Qui, eux, du coup, tout ce qu'ils veulent, c'est récupérer leurs pièces et du coup leur argent.
C'est ça.
Là, il y avait vraiment ce côté, voilà, c'est humain, c'est dit avec le cœur, on voit que ça fait vraiment plaisir. Donc en janvier, ça, j'étais pas du tout, enfin au courant ni prête à ça. Je la vois revenir avec sa maman à l'atelier, donc elle me dit, voilà, ma mère voulait absolument vous remercier. Donc là, j'ai un échange avec cette dame. Tellement touchant, j'avais vraiment les larmes aux yeux et je voyais vraiment le bonheur que j'avais procuré grâce à cette restauration qui était pour moi un peu basique.
Oui.
Et en fait, j'étais là, mais waouh, enfin, j'ai vraiment envie de développer du coup une clientèle de particuliers parce que c'est finalement là où sont les histoires les plus touchantes et là où on fait presque le plus de bien aux gens. Donc,
on peut pas savoir l'attachement que mettent les gens sur certains objets.
C'est vraiment un souvenir d'une personne, d'un voyage, d'un échange avec quelqu'un et c'est vrai que.
C'est totalement ça.
Voilà.
En tout cas, merci Laura pour partage d'anecdotes. Et on arrive à la fin de cette émission. Tu es fière de ton parcours aujourd'hui ?
Oui. Je suis fière parce qu'on me dit... moi, j'ai toujours du mal à me faire confiance. Et en fait, beaucoup de gens, des fois, me rappellent « Mais non, mais Laura, tu te rends compte quand même, t'es partie de zéro. Et c'est un métier pas facile quand même. Faut un peu batailler, même si on n'est pas beaucoup. Voilà, faut arriver à tout réussir pour ça. Et c'est vrai que quand je me regarde en arrière, je me dis, oui, c'est vrai que de là où je suis partie, je m'en sors quand même plutôt bien. Et je suis assez fière de mon parcours. Ouais.
C'est un métier passion ?
Oui, c'est vrai. Ouais, oui, il faut.
Eh bien, c'est ce que l'on souhaite à tout le monde, en tout cas, que son métier soit une passion.
Tout à fait.
En tout cas, Laura, merci beaucoup.
Merci à toi, Fabien.
Un grand
super.
Merci. Bah, avec plaisir de ta présence, ta disponibilité aujourd'hui dans les métiers de l'ombre. C'était passionnant de découvrir ton univers et les coulisses de ton petit atelier.
Merci.
J'espère en tout cas que nos auditeurs auront désormais un regard différent sur ce métier de restauratrice d'œuvres d'art. Bonne continuation à toi, plein de beaux projets et à très bientôt.
À bientôt. Salut.
Salut. En attendant, nous, on se retrouve dans 2 semaines, juste après Les Voix de l'Écho, animées par Yves Maguin. En attendant, excellente journée à tous et n'oubliez pas, chaque voix mérite d'être entendue. À dans 2 semaines, bye.
Radio G 101.5 FM.